Morning Edition from NPR News.
Merci, Tim. Sandy Berhausen. Hallo, Mirador, Rosa, 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 Rosa,
France Inter, le 18-20.
La Chine, la première à nous montrer des images de retour à la normale après le Covid, et désormais la dernière à imposer des confinements à sa population. Et quel confinement ? Shanghai n'en peut plus. Shanghai proteste à la chinoise, mais n'en peut plus. Effectivement, le pays, lui, est enfermé dans l'impasse de sa stratégie zéro Covid, et on y vient dans un tout petit instant. Le bruit du monde, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet avec Daria et ses enfants en Ukraine. Le bruit du monde, la suite, c'est l'Argentine qui commémore les 40 ans de la guerre des Malouines. Et puis le bruit du monde, la fin, sous les radars, Sébastien Ogeni a trouvé le Pakistan qui fête le départ de son premier ministre, les Russes qui manifestent en Allemagne, et une cordée toute particulière au pied de l'Everest. À 18h50, le monde selon Joe Biden. Vous verrez ce que dit la presse US de notre élection et comment deux présidents pour le prix d'un ont plaisanté à la Maison Blanche. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et les grandes différences Macron-Le Pen en politique étrangère. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Voilà, je voulais vraiment vous emmener à Shanghai ce soir, qui est intégralement confiné, ça vous le savez, mais cet enfermement est en train de les rendre fous, ces Chinois qui n'ont plus le droit de se déplacer du tout, au point que sur la séparation des familles, par exemple, quand l'un des membres est positif au Covid-19, cette séparation a été assouplie par la Chine, au point que cet acharnement à maintenir cette politique zéro Covid est en train d'avoir des conséquences dangereuses à plus d'un titre. On va rejoindre Antoine Bondaz dans un tout petit instant pour analyser cette Chine qui s'obstine. Avant, je voudrais vraiment que vous compreniez ce que ça veut dire que vivre à Shanghai. Simon Leplâtre est le correspondant de France Inter, il est enfermé comme tout le monde. Et la première question qu'on lui a posée cet après-midi, c'est: Simon, depuis combien de temps n'avez-vous pas pu mettre le nez dehors?
Ça fait une dizaine de jours, puisque c'était le 31 mars, la dernière fois que j'ai pu sortir librement dans Shanghai, qui était déjà un peu une ville à moitié fantôme. Mais depuis le 31 mars, on est en confinement strict. Et donc, bon, je peux quand même mettre le nez dehors, c'est-à-dire que je vis dans une résidence qui n'est pas la plus stricte de Shanghai, donc je peux sortir un petit peu le soir, notamment quand il n'y a personne.
Quand il n'y a personne, donc ça veut dire que, parce que si vous êtes pris dehors alors qu'on est en confinement strict, ça vous coûte cher, j'imagine.
Alors là, je parle de petites marches à l'intérieur de ma résidence.
D'accord.
Sortir de la résidence, c'est impossible. Il y a des chaînes sur le portail.
Ah, wow.
Et le gardien a les clés de la chaîne.
Et comment vous mangez, Simon ? C'est aussi bête que ça, mais la nourriture arrive comment ? Est-ce qu'il y a des moments où vous pouvez collectivement aller chercher à manger ? Est-ce qu'on vous l'apporte ? Ça marche comment ?
Justement, c'est compliqué et ça devient un gros sujet de préoccupation pour la plupart des habitants de Shanghai. Moi, j'avoue que j'ai encore largement assez de calories, on va dire, mais ça commence à manquer de diversité. Je mange beaucoup de pommes de terre, de riz et de nouilles. Et j'avoue que je pense à ma dernière salade avec une certaine émotion. Mais concrètement, du fait de ce confinement très strict, le gouvernement organise quelques distributions de nourriture. Là, aujourd'hui, j'ai reçu 5 kilos de riz. J'avais reçu quelques légumes et un petit peu de viande la semaine dernière. Et puis, au niveau des résidences, ils s'organisent en fait des groupes d'achat, des groupes sur l'application WeChat, où on peut acheter une sélection assez restreinte de produits, mais qui va s'ajouter un peu à l'ordinaire de ce qui est donné par le gouvernement, quoi.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui manquent réellement de nourriture, là où il y a des familles nombreuses peut-être ? Est-ce que certaines familles sont obligées de se restreindre parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde ? On en est là ou pas ?
Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça en ligne, notamment les gens, je pense, qui n'avaient pas bien anticipé, parce que il faut rappeler que Shanghai a été confiné en deux temps, et ça a d'abord commencé avec l'est de la ville, Pudong, et eux n'ont eu que quelques heures pour se préparer. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire de réserve. Et puis tous les gens qui sont pas habitués à cuisiner, ou qui n'ont pas forcément de cuisine, ou qui ont été confinés sur leur lieu de travail, etc. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en difficulté. Et donc, bah, normalement, en se plaignant au comité de quartier ou aux autorités locales, on peut recevoir de l'aide. Mais on est une ville de 25 millions de personnes, donc évidemment, il y a des cas nombreux de gens qui vont être oubliés, ou des personnes âgées qui sont pas connectées. Donc il y a beaucoup de gens qui se plaignent, notamment à leurs fenêtres. On voit des vidéos comme ça de gens qui appellent les autorités depuis leurs fenêtres et qui crient pour se plaindre.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a, alors on est en Chine, c'est compliqué, hein, mais qu'il y a une fronde qui est en train de monter quand même à Shanghai, que peut-être on n'a pas vu d'ailleurs dans les épisodes de confinement précédents, mais celui-ci est très inédit, il est surtout très reculé par rapport au précédent et même par rapport au reste du monde. Donc est-ce qu'il y a une fronde qui est en train de monter ou est-ce que ce terme est un peu trop gros en fait ?
Alors, j'utiliserai pas forcément ce terme-là, mais c'est clair qu'il y a une frustration et une colère qui grandit. Après, c'est quelque chose d'assez éparse et de très varié en fonction des situations. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur mal en patience, mais on voit effectivement naître beaucoup de petites protestations, beaucoup de gens qui se plaignent, beaucoup de gens aussi qui parfois en viennent aux mains. Donc oui, ça arrive et je pense que les autorités ont assez peur de cela. Donc, elles hésitent entre prendre des mesures toujours plus strictes parce que le nombre de cas continue à augmenter et en même temps éviter une fronde plus générale.
Vous êtes testé tous les combien, justement, pour éviter cela peut-être ? Et qu'est-ce qui se passe si vous êtes positif ?
Alors, on est vraiment beaucoup, beaucoup testé. Parfois, c'est tous les jours avec au moins des autotests. Et les tests PCR, qui supposent une logistique un peu plus importante, c'est à peu près tous les 3 jours. Et effectivement, c'est un peu la hantise de tout le monde d'être positif parce que on est censé être envoyé dans des centres d'isolement ou alors à l'hôpital si on a un peu plus de symptômes. Et ces centres d'isolement, ce sont en fait des gymnases ou des centres d'exposition, en général très vastes, avec des lits de camp, éventuellement quelques cloisons, et vraiment des conditions assez sordides. Il n'y a pas de douche, souvent les sanitaires sont pas propres, et il y a à peine d'eau courante, etc. Et les témoignages qui en reviennent, tous les gens disent qu'ils se sentent traités comme du bétail, quoi.
Et on y reste combien de temps jusqu'à ce qu'on soit à nouveau testé négatif ou plus longtemps ?
En général, à peu près 2 semaines, voire plus. L'idée, c'est qu'il faut être testé négatif 2 fois. Et j'ai vu même récemment qu'ils avaient porté ça à 3 fois.
Mais Simon, qu'est-ce qui se passe si des parents sont testés positifs, mais qu'il y a des enfants à l'intérieur de l'appartement qui eux, sont négatifs ? Qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là ?
C'est une situation compliquée et qui a suscité beaucoup de peur et de frustration ces dernières semaines. Alors, jusqu'à la semaine dernière, les parents et les enfants étaient séparés, et c'était vraiment systématique, au point que les autorités municipales ont même défendu cette politique au nom du zéro Covid, en fait. C'est-à-dire une approche complètement comptable, où le but, c'est d'éviter qu'un parent négatif soit contaminé par un enfant positif, par exemple, ou l'inverse. Il y a eu de telles protestations qu'ils ont commencé à changer un petit peu, c'est-à-dire que désormais certains centres d'isolement peuvent accueillir parents et enfants ensemble et informent les parents négatifs éventuellement qui peuvent accompagner leurs enfants à leurs risques et périls.
Tout à l'heure, je l'ai laissé passer, vous nous avez dit il y a des gens qui sont confinés sur leur lieu de travail. Ça existe, ça ? Il y a des gens qui ont décidé de se confiner sur le lieu de travail pour continuer à travailler ?
Oui, alors il y a plusieurs situations. Par exemple, les usines, les grandes usines qui vont avoir leur propre campus et donc des dortoirs. Dans ce cas-là, en fait, c'est plus facile pour eux de continuer la production. Donc, ils vont simplement fermer complètement les campus. Mais dans ce cas-là, les conditions peuvent être acceptables. Et ensuite, il y a des plus petites entreprises ou des bureaux, par exemple, qui ont besoin que leurs employés soient sur place. Ou alors des gens qui se retrouvent coincés. Et dans ce cas-là, bah, ça va être acheter en ligne des lits de camp et aller se brosser les dents le matin sur les toilettes de l'étage avec son patron, quoi. Donc voilà, il y a des témoignages comme ça qui émergent. Et puis il y a aussi le cas encore plus difficile des tout le staff des résidences, c'est-à-dire les gardiens, les employés d'entretien, etc. Quand il y avait des cas dans des résidences, se retrouvent confinés avec toute la population, sauf que eux, ils n'ont pas d'appartement sur place. Donc c'est pareil, ils n'ont pas d'affaires et ils doivent dormir comme ils peuvent.
Vous savez quand votre calvaire à Shanghai finira ou pas ?
Hélas, non. Aujourd'hui, on a commencé à voir certaines résidences qui n'ont pas eu de cas depuis plus de 2 semaines être ouvertes. Mais elles sont ouvertes sur une ville fantôme et souvent les gens peuvent simplement profiter un peu des espaces communs de la résidence ou marcher autour. Chez moi, c'est pas le cas. Donc, je pense que ça va être sans doute encore 1 semaine ou 2 parce qu'on a eu des cas la semaine dernière.
Eh bien, on vous souhaite bon courage, vraiment, Simon Leplâtre. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Merci vraiment, Simon.
Merci.
Et bonsoir, Antoine Bondaz. Monsieur Bondaz, est-ce que vous êtes là ?
Oui, bonsoir.
Ah, bonsoir, bonsoir. Je vous en prie. Si, si, on vous entend très bien. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Monsieur Bondaz, enseignant à Sciences Po, il est vraiment édifiant, le témoignage de Simon Leplâtre. La stratégie zéro Covid, Antoine Bondaz, c'était la fierté de la Chine. Est-ce que vous diriez qu'elle devient aujourd'hui le symbole de l'échec des Chinois?
Non, puisque du côté des autorités centrales, on considère qu'il n'y a pas encore d'échec et on se réjouit notamment du fait que l'augmentation des cas à Shanghai n'est plus exponentielle. C'est-à-dire qu'on a à peu près 20 à 25 000 cas déclarés chaque jour à Shanghai, mais le nombre de cas ne continue pas d'augmenter, entre guillemets, chaque jour. Et ça, selon les autorités à Pékin, c'est la preuve non seulement qu'à Shanghai, la situation peut être maîtrisée, mais aussi que dans d'autres provinces qui ont fait l'objet de flambées épidémiques de plus faible ampleur ces derniers mois, la Chine a réussi à faire face. C'était notamment, par exemple, le cas dans la province du Jilin, qui est dans le nord-est de la Chine.
Mais alors, excusez-moi.
Et donc l'objectif, c'est encore une fois de dire que la stratégie Covid, zéro Covid, pardon, elle reste la stratégie mise en œuvre, comme l'a rappelé d'ailleurs Xi Jinping au mois de mars, et que la Chine ne compte pas changer de stratégie, et on en parlera peut-être plus tard, mais elle cherche notamment à continuer à se différencier des pays occidentaux qui sont présentés, à l'inverse, hein, comme des pays ayant échoué face à la pandémie.
Mais alors précisément, si elle ne change pas de stratégie, est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas avoir tort de toute façon quand on est la Chine aujourd'hui, ou est-ce que c'est parce que ce que c'est la Chine et qu'elle ne dira pas tout haut, c'est qu'elle n'a pas les moyens hospitaliers ni l'efficacité vaccinale pour risquer une ouverture du pays?
Alors je pense qu'il y a les deux dimensions. Il y a une dimension sanitaire qui est que si il n'y avait pas de contrôle et qu'on laissait flamber la pandémie en Chine, le système sanitaire ne pourrait pas faire face. Il faut bien se rappeler que la situation à Wuhan était extrêmement compliquée au printemps 2020, mais a pu être gérée parce qu'il n'y avait quasiment que Wuhan et le Hubei qui étaient des régions confinées. C'est-à-dire que l'ensemble du pays, 1,4 milliard d'habitants, sont quasiment venus en aide à 60 millions d'habitants. Il y avait donc un confinement qui était relativement localisé dans l'espace en Chine. C'est à peu près la même chose aujourd'hui à Shanghai. L'inquiétude, c'est évidemment si d'autres grandes villes, et c'est la question qui va se poser dans les jours qui viennent, notamment dans le sud du pays, vers Canton, si d'autres villes font l'objet de ce confinement. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'aspect vraiment politique. Et l'aspect politique, il est de continuer à se différencier des pays occidentaux. Aujourd'hui, par exemple, dans la presse chinoise, ce matin même, on explique que dans les pays occidentaux, on a laissé la pandémie se faire, que c'est une forme, je cite, de darwinisme social cruel qui a fait que nous avons laissé en Europe, notamment aux États-Unis, les personnes vulnérables et faiblement immunisées se faire contaminer. Mais... Or, du côté des autorités chinoises, l'objectif, c'est de mettre en avant ce qu'ils appellent les gens d'abord et la vie d'abord, c'est-à-dire de considérer qu'il ne faut pas qu'il y ait de mort pour pouvoir démontrer qu'en Chine, les capacités et notamment le système de gouvernance est plus efficace et surtout prend en compte les besoins in fine des gens. Et ce besoin, c'est avant tout celui de ne pas mourir.
Et en même temps, Antoine Bondaz, on s'est bien rendu compte à Shanghai notamment que les gens commencent un petit peu à craquer aux entournures. Ça devient extrêmement contraignant, extrêmement compliqué, d'autant que ils ont... Surtout dans une ville comme Shanghai, pour certains, la capacité d'aller, de se rendre compte que partout ailleurs dans le monde, cette chape de plomb a été soulevée, alors qu'elle se repose à nouveau sur la Chine. Okay. Est-ce que le fait que ça craque à certaines entournures est motif d'inquiétude pour le pouvoir, ou pas du tout? Est-ce que c'est très marginal, finalement?
Alors, c'est sûrement un motif d'inquiétude, et ce n'est pas du tout un hasard, par exemple, si ce matin, dans le quotidien du peuple, en une, il y avait un très long article intitulé « L'amour de Xi Jinping pour le peuple », dans lequel on parlait du secrétaire général et on le citait notamment affirmant que, je cite, « devant la protection de la vie des gens, nous devons faire tout ce qu'il faut et nous pouvons faire tout ce qu'il faut et afin de protéger la vie des gens, nous pouvons tout sacrifier ». Et donc le fait d'exposer Xi Jinping, de montrer qu'il s'occupe personnellement de cette situation, qu'il veille, entre guillemets, à mettre en œuvre cette politique, montre bien d'une certaine façon qu'il y a une incertitude, qu'il y a une inquiétude et qu'il faut que le dirigeant lui-même, entre guillemets, s'expose politiquement pour convaincre la population qu'il faille suivre cette stratégie. Le cas de Shanghai, il est aussi particulier en Chine. Shanghai, dans l'imaginaire, ou en tout cas dans la perception des Chinois est souvent présentée comme une ville privilégiée, plus riche, avec une population plus éduquée. Et donc, si le régime lâchait du lest, entre guillemets, à Shanghai, ça pourrait être interprété comme une forme de discrimination, comme une forme d'inégalité, avec l'idée que les provinces plus pauvres, entre guillemets, elles feraient l'objet de mesures dont ne bénéficieraient pas des provinces plus riches et plus privilégiées. Et donc, du côté de Pékin, il y a vraiment cet objectif de montrer que la situation à Shanghai, elle est tenable, et surtout que Shanghai, entre guillemets, va mettre en œuvre les mêmes stratégies que vont mettre en œuvre les autres provinces, même si, comme le disait parfaitement Simon Leplâtre, il peut y avoir quelques ajustements au niveau local.
Très très rapidement, Antoine Bondaz, économiquement, quand c'est Shanghai qui est fermé, on sait bien ce que ça représente en Chine, qu'est-ce que ça veut dire quand même pour l'économie chinoise et donc par ricochet pour la nôtre aussi rapidement.
Alors évidemment, l'inquiétude, c'est que dans les chaînes de production mondiale et notamment dans les chaînes de valeur, certaines usines, évidemment, impactent l'ensemble de ces chaînes de valeur, qu'il n'y ait pas, par exemple, certains composants. Alors après, Shanghai, aujourd'hui, par exemple, n'est pas le seul pôle industriel en Chine. L'inquiétude, c'est justement si, en plus de Shanghai et de sa région, la région, par exemple, du sud, de Canton, notamment où il y a beaucoup d'entreprises dans la tech, dans les semi-conducteurs et plus largement, venait elle aussi à être confiné ces visites, ça c'est une inquiétude forte, mais pour l'instant, il faut bien souligner que 95% des cas de Covid en Chine sont localisés à Shanghai.
Merci beaucoup, merci vraiment Antoine Bondaz, on remercie aussi Simon Leplâtre depuis son confinement de Shanghai.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet, puis les Malouines, 40 ans après la guerre. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
Le Pakistan, puissance nucléaire, a un nouveau Premier ministre issu d'une des deux grandes dynasties politiques du pays.
Le Monde selon Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Pour la presse américaine, la très anti-OTAN Marine Le Pen à l'Élysée dans deux semaines bouleverserait l'équilibre politique européen et fragiliserait les alliés en Ukraine.
Le Monde d'après, Jean-Marc Faux, bonsoir, vous êtes
bonsoir
sur la même ligne.
Bonsoir à tous, et bien justement, oui, sur l'OTAN, sur la Russie, sur l'Europe, bref, sur la politique étrangère, les positions d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont presque diamétralement opposées.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il passe par les États-Unis avec Cordae, le jeune rappeur américain. La chanson s'appelle Sea Carter et c'est dans la playlist d'Inter.
Ladies and gentlemen, boys and girls, I need y'all to just rock with me. Yeah, I used to dream about a Dodge Charger. Suicide dose, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Hey, I used to dream about a new Hummer. Back when good music dropped Cruel Summer. Back when niggas wondered if I do numbers. Check the stats, boy, a nigga doing huge numbers. Got this dime piece sucking on my cucumber. I ain't doing too bad for a newcomer. This life shit gave me scars with a bruise under. Certain shit'll make you wonder. But that's a part of the game. We call life, love is hard to attain. My little brother drive a Jeep and I just bought him a chain. A real nigga, what I'm is and what I always remain. But this bitch temptation keep calling my name. I wrote this song in LA, I was driving my Benz. Thinking about this road I'm on to acquire ends. I'm a fucking outlier, I retire these trends. Niggas told me I was stupid just for hiring friends. I used to dream about a Dodge Charger. Suicide dose, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Okay, listen to these proverbs or odd words we call rap music. That took me all across the globe, watch people react to it. Figments of imagination, couldn't fathom elation. Indescribable with words, so I'll go illustrate it. Illustrious rhyming career for which my rhymes are revered. Clear signs of alignment, shows my timing is near. We all here for an assignment, several souls that are migrant. Simply vessels in this climate, solitary confinement. I break free every time that I wake. My fate leads and I'm
Et comme chaque soir, voici les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Chaque jour, grâce à vous, nous prenons des nouvelles d'une dizaine de jeunes gens qui vivent la guerre aux premières loges. On retrouve Daria ce soir qui, dans les premiers jours de la guerre, avait fui Kiev avec ses deux filles et son mari et rejoint l'ouest du pays.
Oui, et la dernière fois qu'on l'a entendue ici, elle avait partagé les sons d'une explosion de nuit dans sa ville de l'ouest qu'elle pensait pourtant épargner. Celle avait alors décidé à contre-cœur à quitter le pays et elle disait qu'il ne restait plus qu'à acheter des chaussures d'été à ses filles pour le voyage vers la Belgique où une amie pourrait les accueillir. Voilà le message qu'on a reçu le lendemain de cette décision.
Voilà, on est venu dans un centre commercial. En fait, il y a des cafés qui fonctionnent, il y a du monde, il y a des odeurs. On n'est pas vraiment sorti depuis un mois et c'est quand même un sentiment assez bizarre, un peu comme on sortait d'une cave. À Chotron ? Où est-ce que tu es ? Frozen. Oh là là, mes filles, elles voient partout les personnages de leurs dessins animés préférés. C'est impossible. Tac, moi, Chouka et mon Zoutia. Je leur dis qu'on cherche des chaussures, pas des jouets. Як у вас тогда?
Ну гаразд, будеш плавати.
Elle essaie des chaussures et elle dit que c'est un peu comme les nageoires. Il y a des caddies remplis de produits différents qu'on demande des gens à acheter pour les déplacer et pour l'armée. Donc même ici dans cet endroit, il y a les signes de cet état dans lequel on se trouve.
De retour dans l'appartement avec les nouvelles chaussures, il y a de nouveau une alarme.
Là, après hier soir, on fait beaucoup plus attention et on se cache tous dans le couloir entre les murs. On entend nos voisins sortir. Katia, elle est en train de faire, elle est venue avec un tabouret et une tablette pour continuer à faire son devoir. Et elle vient de dire que leur devoir, c'est d'écrire un essai sur la meilleure journée de l'année. Et elle a dit que le meilleur jour de l'année n'est pas encore arrivé parce que pour elle, le meilleur jour de l'année, ce serait le moment de la victoire où la Russie arrête de bombarder les habitants civils.
Merci à Daria. Vraiment, qu'on retrouvera plus tard cette semaine. Et merci à vous aussi, Caroline Gillet. À demain, Caroline.
Le 18-20.
Le bruit du monde, la suite est en Argentine qui commémore actuellement les 40 ans de la guerre des Malouines contre la Grande-Bretagne. C'était en avril 1982. Le dictateur Leopoldo Galtieri envoyait ses troupes sur les îles pour y planter le drapeau argentin après 150 ans d'occupation anglaise. Le conflit a duré 2 mois. Il a tué 650 Argentins, 255 soldats anglais. Aujourd'hui, la guerre est encore bien présente dans l'esprit des Argentins, tout comme la volonté de récupérer ces Malouines. Le reste, c'est Caroline Vic qui raconte.
Le 2 avril dernier, jour de la commémoration du début de la guerre, les anciens combattants, émus, se saluent fraternellement. La plupart étaient de simples conscrits qui faisaient leur service militaire. Ce fut le cas de Ricardo Hachlovski. Il avait 20 ans et faisait partie de la 10e brigade du régiment d'ingénieurs. Du jour au lendemain, on l'a mis dans un avion et on l'a envoyé aux Malouines sans explication. Ricardo Hachlovski.
Quand on a posé un pied aux Malouines, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et pour combien de temps? C'est un terrain totalement inhospitalier, complètement désert, avec un climat très hostile, extrêmement humide. D'ailleurs, quand on a creusé la terre pour faire des tranchées, quand on passait les 70-80 cm, il y avait déjà de l'eau qui sortait. C'était des trous de 3 mètres sur 3 avec 3 personnes dedans, d'une profondeur d'un mètre et demi et recouverts de tôles et de morceaux d'herbe pour les camoufler. Malgré ces conditions, on portait le même uniforme que d'habitude avec en plus un blouson et un sac de couchage tout à fait commun et c'est tout.
Pendant un mois et demi, ces jeunes soldats résistent courageusement face aux troupes de Margaret Thatcher. Une guerre qui pouvait sembler perdue d'avance, mais il faut rappeler que le conflit a éclaté en pleine dictature. En 1982, face à la crise économique et la montée des protestations, Leopoldo Galtieri, au pouvoir à ce moment-là, tente de faire remonter sa popularité en envoyant ses troupes aux Malouines. Car depuis toujours, ces îles sont le tendon d'Achille des Argentins. Habitées d'abord par les Malouins, les explorateurs venus de Saint-Malo au XVIIIe siècle, les îles sont cédées aux Espagnols, puis deviennent argentines au moment de l'indépendance, en 1810. Edgardo Esteban, le directeur du musée des Malouines de Buenos Aires.
Il y avait 23 familles en 1810, toute une communauté qui était en train de construire l'Argentine, qui faisait ses premiers pas. Mais le 3 janvier 1833, les Britanniques s'approprient les Malouines. Il y a même eu un moment où les Anglais ont failli nous rendre les îles parce que les habitants dépendaient tous de l'Argentine. Il y avait la banque, la poste argentine, du gaz argentin. Il y avait un lien très étroit avec les habitants des îles que la dictature militaire a détruit, car la guerre a marqué un véritable recul.
Après la guerre, les Anglais ont interrompu les négociations, car depuis l'occupation des îles, l'Argentine n'a cessé de réclamer les Malouines. Guillermo Carmona, secrétaire des Malouines au sein du ministère des Affaires étrangères.
L'Argentine considère que le Royaume-Uni a usurpé notre territoire national à partir d'une invasion militaire qui a eu lieu en 1833 et qu'actuellement, il occupe de manière illégitime le territoire argentin. D'ailleurs, la résolution 2065 de l'ONU considère qu'il s'agit d'un cas de décolonisation. Notre but n'est pas que les Malouines soient argentines, parce que historiquement et juridiquement, elles le sont déjà. Ce qu'on veut, c'est reprendre les négociations et récupérer l'exercice de la souveraineté par la voie du droit international.
Base stratégique de l'Atlantique Sud, les Malouines sont aussi une poule aux œufs d'or. Pétrole et abondance de fruits de mer, des ressources naturelles aujourd'hui illégalement exploitées par le Royaume-Uni et qui lui rapportent gros. Les Argentins ont donc des raisons historiques, juridiques, émotionnelles et économiques qui expliquent que, bien plus qu'une simple dispute avec les Anglais, les Malouines sont une véritable politique d'État.
Caroline Vic pour le reportage. Merci beaucoup Caroline. La suite, c'est Sous les radars et c'est Sébastien Eugénie. Et Sébastien, nous sommes au Pakistan. C'était hier, des manifestants qui célèbrent le départ du Premier ministre Imran Khan.
Oui, c'est la fin d'une crise politique qui durait depuis des semaines. Cette ancienne star du cricket était sur le fil, fustigée à cause d'une inflation massive, de la poursuite des attaques terroristes et en délicatesse avec la toute puissante armée pakistanaise à cause d'une politique étrangère plus proche de Moscou que de Washington. Tout cela a fini par le faire se renverser. La sentence est tombée ce week-end. Une motion de censure des parlementaires votée d'un cheveu. Une première dans l'histoire du pays. Imran Khan avait tenté de briser des décennies de partage du pouvoir entre les deux grandes dynasties du pays, les Bhutto et les Sharif. Et bien finalement, retour en arrière, c'est le frère d'un ancien Premier ministre qui va reprendre les rênes du pays. On entend là Shehbaz Sharif, frère cadet de Nawaz Sharif, qui lui a déjà été 3 fois Premier ministre par le passé. Et c'est lui qui a été désigné comme nouveau chef du gouvernement de ce pays de 220 millions d'habitants doté de l'arme nucléaire. Alors qui est-il ? Shehbaz Sharif est un homme politique chevronné et sévère, connu pour sa force de travail et ses visites surprises dans les bureaux des fonctionnaires cachés derrière un chapeau de safari. L'homme sort enfin de l'ombre de son frère, mais comme lui, il est aussi lié à des affaires de pots de vin, accusé de blanchiment d'argent et dans l'attente de son procès. Alors saura-t-il relever le défi et surtout rester au pouvoir ? Jamais aucun premier ministre pakistanais n'a fini un mandat depuis l'indépendance du pays en 1947.
En Allemagne, la communauté russe est descendue dans la rue ce week-end.
Oui, plusieurs rassemblements pro-russes controversés se sont tenus samedi et dimanche dans le pays. 800 personnes à Francfort, 600 manifestants à Hanovre, 150 à Lübeck. À chaque fois, des drapeaux russes brandis par une foule qui entonne l'hymne national. Des manifestants qui refusent de critiquer l'offensive du Kremlin et qui se plaignent de discrimination depuis le début de l'invasion en Ukraine. Selon ce manifestant, beaucoup de russophones, de Russes ont été victimes de discrimination, de harcèlement en raison de leur langue, de leur culture. C'est pourquoi nous sommes, dit-il, rassemblés pour montrer que nous ne tolérons pas ça. Il faut séparer les situations politiques actuelles des situations humaines. Depuis le début de la guerre, la police allemande a répertorié 383 délits anti-russes, mais aussi 181 délits anti-ukrainiens. L'Allemagne qui accueille les deux communautés, 1
1 200 000 personnes originaires de Russie et 325 000 d'Ukraine, auxquelles il faut ajouter les dizaines de milliers de réfugiés. Et à chaque fois, à chaque manifestation pro-russe, des manifestants pro-ukrainiens en face sortent aussi dans la rue. Ce fut le cas encore ce week-end. L'Allemagne qui a toutes les raisons de craindre une importation du conflit ukrainien sur son territoire.
Et puis on termine avec un projet à la frontière entre le sport et la géopolitique.
Oui, ça s'appelle le Full Circle Everest, le cercle complet de l'Everest, une équipe de 10 personnes, pour la plupart des Américains, qui ont tous la particularité d'avoir la peau noire et de vouloir escalader le plus haut sommet de la planète. Jamais, en effet, une cordée, une expédition composée à 100% d'alpinistes d'origine africaine n'a atteint l'Everest. Ce serait une première mondiale. Ce qui est important, dit l'un des membres de l'expédition, c'est de montrer l'exemple, de montrer que des personnes noires peuvent se retrouver dans cet environnement qu'est la haute montagne. L'idée, c'est de prouver que ce n'est pas un sport réservé seulement aux blancs. Sur 6000 alpinistes connus ayant gravi l'Everest à ce jour, moins de 10 personnes étaient d'origine africaine. La cordée est actuellement au Népal. Ils espèrent atteindre le sommet d'ici 2 mois, avec notamment dans leur équipe le Kenyan James Kakambi, 62 ans, le doyen des alpinistes africains. On peut suivre toute leur aventure sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça en contact sur le site de Sous les Radars.
Formidable épopée, merci beaucoup Sébastien. Bien sûr, à demain, je vous laisse partir avec un duo formidable, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Dream, A Little Dream of Me, ça date de 57.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, Dream a Little Dream of Me sur France Inter. Allez, on reste aux États-Unis. Sébastien Power est à Washington.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
Et forcément, l'Amérique de Biden s'intéresse un peu à la présidentielle française ce soir. C'était pas trop le cas jusque-là, Sébastien. Un tout petit peu plus au lendemain de ce premier tour.
Oui, depuis des mois, on avait vu passer à peine une poignée d'articles sur le scrutin, essentiellement d'ailleurs sur le phénomène Zemmour, qu'on présentait comme un potentiel Trump, avec de gros guillemets. Ce matin, évidemment, tous les journaux se fendent d'un compte-rendu du premier tour d'hier. Et même CNN met à la une de ces 5 choses à savoir ce lundi.
Our time for 5 things to know for your new day. President Emmanuel Macron in France and far-right challenger Marine Le Pen appear to be the top 2 candidates
Macron-Le Pen d'Andersen, c'est l'affiche de 2017, rappelle CNN. Dans les journaux, le président sortant est présenté comme un centriste et la présidente du Rassemblement national comme la chef de file de l'extrême droite ou de la droite dure, selon les cas. Pour Roger Cohen, dans le New York Times, le score de Marine Le Pen démontre l'attrait durable des courants nationalistes et xénophobes en Europe, alors que la guerre fait rage en Ukraine. Il rappelle que Madame Le Pen a adouci son image, pris ses distances avec le Kremlin depuis le début du conflit, alors que celui qui représentait l'espoir réformateur en 2017 a perdu de son lustre, toujours selon Roger Cohen, notamment parce que ses nombreux appels à Poutine ces dernières semaines n'ont pas donné de résultats. Pour le Washington Post, c'est clair, la patronne du RN a bénéficié de la campagne d'Éric Zemmour, alors que le Wall Street Journal décrit Marine Le Pen comme la descendante de la famille d'extrême droite la plus importante d'Europe, une candidate qui a lissé son image, qui a parlé d'elle et de ses chats. Elle est anti-OTAN et sa victoire bouleverserait la politique européenne, conclut Roger Cohen, et les équilibres de l'Alliance alors que la guerre en Ukraine continue.
Alors Sébastien, comment ont-ils voté les Français d'Amérique du Nord d'ailleurs ?
Alors un peu moins de 250 000 installés entre les États-Unis et le Canada, et les électeurs ici aussi ont placé Emmanuel Macron en tête du premier tour, 46,9% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon, un peu moins de 22%, Yannick Jadot est troisième devant Éric Zemmour, et Marine Le Pen ici n'est que cinquième avec 3,9% des suffrages.
Alors un ou une présidente attendue donc en France, et deux présidents chez vous à Washington, Sébastien.
Deux présidents américains pour le prix d'un à la Maison Blanche, c'était la semaine dernière pour l'anniversaire de la signature de l'Obamacare, l'accès à la santé pour tous, qui est en vigueur depuis 2010. Et pour l'occasion, l'actuel président Joe Biden avait invité le 44e président, Barack Obama. Obama qui n'était pas revenu à la Maison-Blanche depuis son départ le 20 janvier 2017 et qui a eu droit aux applaudissements. Voilà comment il commence son discours pour l'occasion.
Vice President Biden, Vice President.
Il s'adresse d'entrée au vice-président Biden. Comme quand lui était dans le bureau ovale et que Biden était son vice-président, il est sûr que tout ça a été prévu, que c'était une blague. Obama dit aussi qu'il voit bien qu'il y a eu des changements, que tous les agents des Secret Service, des services secrets, portent des lunettes de soleil Aviator, comme celles que Biden aime avoir sur le nez, vous savez, les lunettes de pilote, et que la cantine a été remplacée à la Maison-Blanche par un stand de glace Baskin-Robbins, les préférés du président. Biden prend ensuite la parole, et là encore, rafale d'allusions et d'ironie à leur longue amitié.
My name is Joe Biden, I'm Barack Obama's vice president.
Je m'appelle Joe Biden, je suis le vice-président de Barack Obama, dit Biden.
Welcome back to the White House, man. Feels like the good old days. We just had lunch together.
Ça rappelle de bons souvenirs de te voir là. On vient de déjeuner et on ne savait pas qui s'asseyait de quel côté de la table. Là encore, allusion à leur période tous les deux ensemble à la Maison Blanche. Les deux hommes, on l'a compris, sont très amis. Ils ont travaillé pendant les deux mandats d'Obama, qui n'était donc pas revenu à la Maison Blanche sous Trump et qui a eu droit à un retour en grande pompe la semaine dernière.
Allez, merci beaucoup Sébastien Paour et vous revenez chez nous bien sûr lundi prochain.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, s'il y a un domaine où les positions d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen divergent, c'est bien la politique étrangère et ce grand écart entre les deux candidats, encore en lice donc pour l'Élysée, mis en évidence par la guerre en Ukraine. Et c'est votre monde d'après.
Il y a quelques convergences de façade. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont tous deux favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ils ont tous deux dénoncé l'invasion russe. Mais le conflit agit surtout en effet comme un révélateur de leur profonde divergence sur la relation à la Russie comme sur la relation à l'OTAN. Sur la Russie d'abord, certes le président sortant a ménagé Vladimir Poutine depuis 5 ans, Sébastien Paour le rappelait à l'instant, en l'accueillant au fer de Brégançon, en faisant le déplacement de Moscou pour essayer de le convaincre de renoncer à la guerre. Mais rien de comparable avec les liens anciens de Marine Le Pen avec le pouvoir russe, des liens qu'elle a cherché à faire oublier lors de la campagne mais qui sont multiples. Vladimir Poutine lui avait d'ailleurs apporté son soutien lors de l'entre-deux-tours en 2017. C'est une proximité idéologique, l'appétit pour un pouvoir fort et autoritaire, d'ailleurs partagé par une partie de l'électorat de Marine Le Pen, une proximité financière, par le passé le FN, devenu le RN, a contracté deux emprunts auprès de banques russes, puis cette fois-ci auprès d'une banque de Hongrie, seul pays de l'Union proche de Moscou. Et une proximité géopolitique, Marine Le Pen préconise, c'est dans son programme, une alliance avec la Russie dans une nouvelle architecture de sécurité en Europe, à distance de Washington.
Ce qui renvoie donc, Jean-Marc, à la relation avec l'OTAN.
Oui, là encore, la convergence entre les deux candidats n'est qu'apparente. Certes, Emmanuel Macron est critique vis-à-vis de l'organisation atlantique. Il avait secoué le cocotier, vous vous en souvenez, il y a 3 ans, en dénonçant l'état de mort cérébrale de l'OTAN. Mais c'était à l'époque Trump. Et aujourd'hui, le président français considère que l'alliance de défense de l'Atlantique Nord a retrouvé, avec la guerre en Ukraine, son sens premier, nous protéger de la Russie. La position de Marine Le Pen est radicalement différente. Pour elle, l'OTAN est une alliance dangereuse, belliciste. Son élargissement aux anciens pays de l'Est est à l'origine de l'inquiétude légitime de Poutine et donc la cause indirecte de la guerre en Ukraine. La candidate du RN préconise la sortie de la France du commandement militaire intégré de l'Alliance Atlantique dès la fin de la guerre en Ukraine, abandonner cette coordination militaire entre alliés, bien que Paris dispose d'une clause particulière avec une large liberté de manœuvre. Alors que faire à la place ou en complément de l'OTAN ? Alors sur ce point, le désaccord entre les deux candidats tourne à l'opposition radicale.
Et ça nous conduit donc à la question de l'Europe.
Oui, pour le coup, les deux finalistes sont aux antipodes. Pour Emmanuel Macron, l'Europe est la solution. Sur la défense, il faut développer, en plus de l'OTAN, une autonomie stratégique européenne avec un quartier général opérationnel, une force de projection commune, des projets industriels communs. L'Europe est aussi la solution pour le reste. L'endettement commun pour relancer les économies post-Covid, la quête d'une autonomie énergétique à 27 pour ne plus dépendre de Moscou, la quête aussi d'une politique étrangère commune. Pour Marine Le Pen, l'Europe n'est pas la solution, mais à l'inverse, le problème. La candidate a mis un peu d'eau dans son vin et ne veut plus sortir de l'Union ou de la zone euro comme en 2017. Mais sur la défense, elle veut remplacer l'OTAN par une défense nationale, indépendante, souveraine. Elle veut aussi, par référendum constitutionnel, instituer la supériorité du droit français sur le droit européen, un peu comme la Hongrie ou la Pologne, interdire le regroupement familial défendu par l'Europe, fermer les frontières au sein de l'espace Schengen, bref, faire imploser l'Europe de l'intérieur. Donc vu de Bruxelles, le vote français du 24 avril ne sera ni plus ni moins qu'un vote pour ou contre l'Union européenne.
Donc en fait, c'est la notion même de politique étrangère, Jean-Marc, qui est conçue différemment par les deux candidats.
Exactement. Pour Marine Le Pen, l'intérêt de la France, c'est de ne compter que sur elle-même, presque se replier sur elle-même. Il y a là quelque chose qui rappelle d'ailleurs Donald Trump, y compris dans la volonté de renégocier ou d'abandonner plusieurs traités commerciaux. Se replier, pour elle, la meilleure garantie de retrouver une prétendue grandeur passée, en bonne partie fantasmée. Pour Emmanuel Macron, à l'exact opposé, l'intérêt de la France passe au contraire par s'impliquer davantage dans les affaires du monde, y compris par le commerce, même avec le risque des excès du libre-échange, et surtout en développant la puissance de l'Europe, seul échelon de taille suffisante pour lui, pour permettre à la France de conserver une influence. Donc il s'agit bien de deux visions diamétralement opposées.
Jean-Marc Fauré, Le Monde d'après. Merci beaucoup Jean-Marc, c'est tous les soirs bien sûr. Vous reviendrez donc demain. La suite pour nous dans le 18-20 et en deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal d'Hélène Filly. À tout de suite et ne changez rien.